Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Good Morning Business, French Take.
Et à 6h42, dans Good Morning Business, on reçoit un serial entrepreneur. Stéphane Boucris, bonjour.
Bonjour.
Fondateur et président d'Excelsior, ex-président d'Excelsior, j'imagine. Vous allez quitter la boîte puisque vous venez de la vendre au cabinet de conseil Alan Alman. C'est votre 10e boîte, Excelsior.
Tout à fait. Alors, déjà, si je peux me permettre, je reste encore, hein, vous inquiétez pas, je suis encore là pour pas mal d'années.
Puisque... Alors, général, tu sais, il y a une clause dans le contrat de cession.
Vous restez quelques temps.
Je reste quelques temps et en plus, j'ai un projet qui est super excitant puisque je me vois confier l'international. Donc moi, à partir de septembre, j'ai développé toute la partie, notamment Moyen-Orient. Je pars m'installer à quelques milliers de kilomètres d'ici et développer Excelsior maintenant au niveau mondial.
Alors justement, Excelsior, vous êtes donc spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans le métaverse. Est-ce que vous y croyez toujours, vous, au métaverse?
Plus que jamais, pas nécessairement sous cette forme.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est comme si on parlait d'Internet et qu'on est à l'ère du Minitel et vous me dites, est-ce que tu crois vraiment à ce truc-là, Internet ? Bon, aujourd'hui, on a le Minitel, plus tard, il y aura quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et ça, j'y crois énormément et nos clients y croient. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on entend, le crypto winter, on en parle beaucoup ici, on n'a jamais vu un tel intérêt pour les mondes virtuels. Aujourd'hui, on a 80% des jeunes qui vivent dans ces mondes virtuels, qui ne font pas que jouer. Ils parlent, ils échangent, ils commercent un petit peu. Et nous, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, entre autres, à nos clients.
Et comment vous voyez, parce qu'on se pose la question, parce qu'effectivement, il y a eu l'engouement pour le métaverse il y a à peine 6 mois. Maintenant, c'est plutôt sur l'IA et ChatGPT. Comment vous imaginez le métaverse de demain? Parce que les boîtes qui font appel à vous, c'est la question qu'elles vous posent.
Elles ne
veulent pas le métaverse d'aujourd'hui. Hein.
Alors, c'est vrai que tout le monde veut y aller. Les gens ne savent pas forcément pourquoi, mais ils veulent y aller. Donc, il y a un mouvement et ça ne s'est pas calmé ces derniers mois. Il y a plein d'usages qu'on verra dans quelques années qui ne sont pas du tout d'actualité. Il y en a un, par contre, qui est très, très actuel. Et ça, on le développe aujourd'hui pour des gens comme AXA, Crédit Agricole, Unibet ou autres, c'est l'usage RH. C'est une thématique qui est chère, je crois, à BFM Business. C'est vrai que quand on fait du recrutement, on peut recruter aujourd'hui, faire passer les entretiens dans le métaverse, c'est quelque chose qui marche très bien. Et en plus, on élimine le côté, le sujet de la discrimination, puisqu'on parle à un avatar, donc c'est très intéressant. On fait de l'onboarding des salariés, on présente l'entreprise, on fait des escape games, donc pas mal de choses qui sont applicables dès aujourd'hui pour plein d'entreprises.
Là, vous êtes sur le métaverse, mais vous pourriez être sur n'importe quoi. Stéphane, vous avez fait tellement de choses à la BFM Academy. On vous a connu en 2008 avec Staff. Vous avez fait mes devoirs. Vous aviez mis le feu au ministère de l'Éducation nationale, ça a fermé. Mailorama, vous avez distribué des billets devant la Tour Eiffel.
La loi Boucris dans le code pénal.
Ça c'était pas très. Voilà, c'est ça. Vous avez fait quand même une loi, ça s'était pas bien passé. Vous avez produit Robin des Bois. Là, vous vendez votre boîte. Demain, vous allez faire quoi? Après le métaverse, c'est quoi?
C'est une bonne question. Si on le savait, ce serait pas mal. Moi, je suis un entrepreneur dans l'âme. Ce que j'adore, c'est créer, rassembler autour de moi, créer des choses intéressantes. Donc, c'est vrai qu'on essaie toujours de naviguer avec le vent. Et moi, je fais des choses qui m'amusent toujours, et c'est le principal. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà.
Mais ces boîtes, c'est au début, c'est le début des boîtes qui vous intéressent.
Moi, je suis un entrepreneur bâtisseur. C'est-à-dire que là où je suis le moins mauvais, c'est vraiment au démarrage. C'est créer l'impulsion, développer, en faire quelque chose vraiment une belle taille, rentable. C'est très important parce qu'on parle toujours de plein de boîtes. Ça me tient à cœur que toutes mes entreprises soient en croissance, rentables. Ça dégage de l'argent. C'est pas juste pour faire les gros titres.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous ennuyez?
Au bout d'un certain temps, c'est forcément, on finit toujours soit par s'ennuyer parce qu'on fait la même chose.
Ouais.
C'est pour ça que là, maintenant, moi, je vais partir à l'international et développer toute la partie business international. C'est ce qui m'amuse.
Et là, vous aviez besoin de quelqu'un au capital pour permettre ce
développement. Et c'est pour ça donc du coup qu'on a rejoint un groupe qui s'appelle Alan Alman Associates, qui est un groupe international très présent notamment au Canada, qui est présent à Singapour, qui est présent en Belgique. Et ça, c'est des choses que je ne sais pas faire à l'international, que je n'ai jamais fait finalement. Il me fallait quelqu'un de costaud et c'est pour ça qu'on a choisi ce partenaire.
Frédéric Simotel.
Ah, Frédéric.
Oui.
Je ne sais pas arriver.
Oui, bonjour Stéphane. Oui,
bonjour Frédéric.
Hier, s'est déroulé pendant quelques jours la Paris Blockchain Week et on a senti quand même autour du Web3, bon, c'est l'euphorie des années 2020-2021, elle est terminée. On le voit, bon, même Mark Zuckerberg est revenu un peu en arrière. Comment vous sentez un peu cette tendance du Web3? Alors, on sent que on va aller chercher des projets sur le plus moyen, long terme. Je voyais des entreprises comme Pernod Ricard, LVMH, le groupe Partouche, ils y vont, mais stratégie prudente. Alors, comment aujourd'hui on vend ces projets?
C'est très très intéressant. Nous, ce qu'on remarque, c'est que nos clients cherchent à capter leurs futurs clients qui sont les jeunes d'aujourd'hui. Et ce qu'on dit, c'est que c'est vrai que les jeunes sont dans ces mondes virtuels, vivent dans les mondes virtuels. Donc peut-être ce sera pas sous la forme qu'on connaît actuellement, mais demain nous vivrons une partie de notre temps, et on le fait déjà d'ailleurs avec les Teams et les Meets, dans une virtualité. Et donc nous, on croit beaucoup 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 à ça. Après, bon, les cryptos, je me prononcerai pas, mais sur toute la partie métaverse, on y croit plus que jamais. Et comme on disait sur le volet RH, c'est quelque chose qui explose aujourd'hui.
Vous êtes aussi investisseur, vous avez un fonds, vous avez combien de participations?
53 investissements.
C'est quoi votre ligne de mire? Vous investissez dans quoi?
Que des entreprises qui sont rentables, en croissance, plutôt B2B parce que c'est mon affinité. Avec une équipe, c'est très important. Quand je comprends le secteur et quand je peux apporter quelque chose, c'est pas juste pour faire un ROI, c'est pour partager quelque chose. C'est l'entrepreneuriat par procuration.
Comment vous vivez cette crise? C'est votre première crise vraiment où c'est plus compliqué de lever des fonds, les valos s'effondrent, le venture, c'est compliqué. Comment vous appréhendez cette nouvelle période de votre vie d'entrepreneur?
La crise, c'est-à-dire
la crise
financière, non? Il y a pas
la crise
financière.
Très bonne remarque.
Il y a pas
la crise
des valos.
Quand on est entrepreneur, je crois qu'il faut faire alors pas abstraction, c'est pas possible parce qu'on voit beaucoup de choses passer, mais il faut quand même se mettre des œillères parce que sinon on se lève pas le matin. Être entrepreneur, c'est un transfert d'enthousiasme un petit peu, c'est communiquer ce qu'on a dans les tripes. Or si on écoute trop ce qui se passe, malheureusement, ben on développe rien.
Mais pour vous, il y a pas de crise aujourd'hui
sur le financement?
Sur le financement, je pense que toutes les entreprises qui sont rentables trouveront toujours des capitaux. Et moi, je finance tous les jours des entreprises qui sont en croissance. Donc c'est plus dur, c'est vrai qu'il y a quelques mois. Mais pour les boîtes qui marchent, qui fonctionnent et qui dégagent quelque chose et qui créent de la valeur, il y a toujours des possibilités.
Vous nous dites pas, je vais monter un fonds à impact.
Je fais partie d'un fonds à impact. Je fais partie d'Impact Business Angels, dont je suis participant. Donc c'est pas ma thématique principale, mais bien sûr, j'investis dans des boîtes à impact.
Ceci dit, nous, tous les gens qu'on reçoit ici, tous les French Tech, il y a toujours un argument à un moment donné. Il y a toujours le moment impact et le moment RSE. On a l'impression que donc, pour cette génération-là, il faut donner un sens à tout ce qu'on fait. C'est vrai ou pas? Ou c'est du RSE
washing?
Vous,
c'est surtout rentabilité.
Hein. Sens et rentabilité, sinon le sens, il dure pas très longtemps. Il faut pas que ce soit juste du sens pour du sens. Il faut que ce soit du sens et de la rentabilité. Sinon, voilà, ça reste un peu pieux et ça tient pas très longtemps.
Voilà, Stéphane Boucry, fondateur et président d'Excelsior, encore pour quelques années, malgré l'entrée, effectivement, d'un investisseur au capital.